Voici une question que nous devons tous considérer sérieusement. Y a-t-il un jour où nous serons tous jugés par le Seigneur? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire pour les croyants et pour les incroyants, aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'aime donc ce que le Seigneur nous enseigne à travers l'apôtre Paul. Qu'il puisse toucher nos cœurs aujourd'hui pour nous amener à marcher de progrès en progrès. Qu'il nous donne des cœurs humbles et réceptifs à ses encouragements comme à ses réprimandes. Voici les questions du jour. Est-ce que chaque croyant est un serviteur de Christ? Qui peut nous enseigner les vérités spirituelles? Qu'est-ce que Dieu demande à ses serviteurs? Devons-nous nous laisser guider par l'opinion que les autres ont de nous? Est-ce que notre conscience est un guide parfait pour nous? Serons-nous tous jugés par le Seigneur un jour? Avons-nous le droit de juger les autres? Y a-t-il des choses pour lesquelles nous pouvons nous glorifier? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est sur le point de nous révéler de belles choses de la parole de Dieu. Demandons à Dieu qu'il nous enseigne lui-même par la bouche de son serviteur. Prions. Merci, Seigneur, d'avoir choisi des hommes qui peuvent nous enseigner ta parole. Je te demande aujourd'hui, avec toutes les personnes qui écoutent avec nous, que tu nous enseignes toi-même par la bouche de ton serviteur aujourd'hui, que tu touches profondément nos cœurs, que ça fasse une différence dans notre vie, pour ta gloire, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu qu'un chrétien charnel, qui est un enfant spirituel, n'a pas la bonne attitude vis-à-vis la parole de Dieu, et il provoque des divisions dans l'Église du Seigneur. Paul a rappelé aux Corinthiens que tous les hommes de Dieu étaient des serviteurs de Dieu, et que c'est Dieu qui accorde la croissance spirituelle, et non des hommes. Il y a un seul fondement, Jésus-Christ, et nous devons construire sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses pour obtenir une récompense. Si nous construisons avec du bois, du foin et du chaume, nos œuvres seront consumées par le feu au jugement dernier. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 4 de la première épître aux Corinthiens. Dans ce chapitre, Paul termine de traiter des divisions chez les Corinthiens. Chers amis, débutons notre lecture, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Oui, chers amis, nous sommes tous des serviteurs de Christ. Penchons-nous sur ce verset merveilleux un moment. Nous sommes tous des serviteurs de Christ. Chaque croyant est un serviteur de Christ. Nous sommes donc tous redevables à Jésus-Christ au sujet de notre service. Nous sommes tous des serviteurs. Nous prêchons tous, que nous le voulions ou non. Ne soyez pas surpris de mon affirmation. Un homme qui avait sombré dans l'alcoolisme vivait à proximité d'une église. Il habitait avec sa mère, qui était une chrétienne qui aimait le Seigneur. Elle demanda au pasteur de parler à son fils. Un jour qu'il marchait, en chancelant devant l'église, le pasteur invita l'homme à entrer dans son bureau. L'alcoolique eut droit à la remontrance habituelle et il fut d'accord avec le pasteur. Puis le pasteur lui dit, « Sais-tu que tu es un prédicateur? » L'homme se leva et dit, « Ne m'appelle pas un prédicateur, sinon je te frappe. » Cet homme était disposé à se faire traiter d'alcoolique, mais il ne voulait absolument pas se faire traiter de prédicateur. Bien, nous sommes tous des prédicateurs. Le pasteur dit à l'homme, « Nous prêchons tous par notre vie. Ta vie enseigne quelque chose au monde et à ton entourage. Tu ne peux t'empêcher de prêcher. Tu me prêches par ta vie et j'en fais autant pour toi. nous avons tous une influence sur les autres. Mes amis, si vous êtes un croyant, vous prêchez. Quelle sorte de message livrez-vous? Un serviteur de Christ est un dispensateur des mystères de Dieu. Au temps de Paul, un serviteur gérait la maison pour son maître. Il était responsable de son bon fonctionnement. Il gérait les achats domestiques et l'entretien de la maison. Il donnait au personnel ce dont il avait besoin pour s'acquitter de ses tâches. Un serviteur de Christ devrait annoncer la parole de Dieu aux membres de la maison de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut enseigner les vérités spirituelles. Nous rencontrons de nouveau le mot « mystère ». Rappelez-vous qu'un mystère est une chose qui n'avait pas été révélée auparavant, mais qui l'est maintenant. L'homme naturel ne peut comprendre les mystères de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut nous enseigner les vérités spirituelles, les choses qui appartiennent au Seigneur Jésus. Dans ce contexte, le mystère est l'Évangile, la parole de Dieu. Puisque nous sommes des dispensateurs du mystère de Dieu, nous devons annoncer et proclamer la parole de Dieu. Après avoir enseigné par des paraboles au sujet du royaume, Jésus dit, « Avez-vous compris toutes ces choses? » « Oui, » répondirent-ils. Matthieu, chapitre 13, verset 51. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment tout compris. Jésus ne dit pas s'ils ont compris ou non, mais il leur dit, « C'est pourquoi ?» Tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Verset 52 du même chapitre, Matthieu chapitre 13. C'est ce qu'un dispensateur des mystères de Dieu devrait faire, annoncer les choses anciennes et les choses nouvelles de la parole de Dieu. Revenons à notre texte, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Oui, chers amis, Dieu nous demande simplement d'être fidèles. Notez que la parole ne demande pas au serviteur d'être éloquent ou d'avoir de nombreux dons. Elle lui demande simplement d'être fidèle. De nombreuses personnes seront récompensées un jour, non parce qu'elles ont accompli quelque chose de remarquable, ou parce qu'elles ont exercé un don extraordinaire, mais parce qu'elles ont été fidèles dans ce qu'elles ont accompli pour le Seigneur et de la façon qu'elles l'ont accompli. Un pasteur d'expérience sait qu'il y a toujours un petit noyau de personnes fidèles dans une église. On peut se fier à ces personnes. Versets 3 et 4. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ces deux versets présentent les trois tribunaux devant lesquels nous serons jugés. Ces versets peuvent sembler difficiles, mais ils ne le sont pas. Ils affirment que vous n'avez pas le droit de me juger et que je n'ai pas le droit de vous juger, parce que nous comparaîtrons tous devant un tribunal supérieur. L'opinion des autres ne doit pas être notre guide principal. La première cour en est une de première instance. C'est le tribunal de l'opinion des autres. Paul dit, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. » Autrement dit, que m'importe ce que vous ou quiconque d'autre pensez de moi? C'est un énoncé étonnant. Et Paul semble manifester un côté antisocial ou asocial. Cependant, Paul ne rejetait pas ou ne méprisait pas l'opinion des autres. Il était touché par ce que les gens pensaient de lui. Il a défendu son apostolat avec émotion lorsque celui-ci fut contesté par des adversaires. Les fausses rumeurs le blessaient. Il le mentionne dans ce chapitre. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Les versets 11 et 13 de ce même chapitre. Paul était sensible à l'opinion des autres, mais il n'en tenait pas compte en dirigeant sa vie. Que nous le désirions ou non, nous serons tous jugés par les autres. Chacun fait sa propre opinion. C'est inévitable. Il y a toujours un danger que nous reculions devant l'opinion des autres et que nous cédions aux critiques de nos ennemis. De nombreuses cours favorisent la popularité au détriment de la justice. C'est le cas de plusieurs politiciens. Certains vont sacrifier leurs principes pour se faire réélire. Beaucoup cherchent la popularité et la célébrité. Horace Greeley, du New York Tribune, a dit « La célébrité est une vapeur, la popularité un accident, les richesses s'envolent. Ceux qui applaudissent aujourd'hui maudiront demain. Seul le caractère demeure. » Quelqu'un d'autre a dit « Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous préférons être détruits par des louanges plutôt que d'être sauvés par des critiques. » Je crains que cet énoncé soit vrai. Quoique Paul soit sensible à l'opinion des autres, cette opinion ne devint pas le principe qui a guidé sa vie. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. La conscience n'est pas un guide parfait, chers amis. Deuxièmement, il y a une cour supérieure, c'est la cour de notre conscience. Je ne me juge pas non plus moi-même. Est-ce que la conscience est un bon guide? Paul dit que non. Nous devons être guidés par l'Esprit de Dieu. Nous avons déjà parlé de l'âge de la conscience en étudiant le livre de la Genèse, et nous avons vu que cela s'est terminé par le jugement du déluge. Les chrétiens devraient avoir une conscience éclairée. Lorsqu'elle nous avertit que nous faisons une mauvaise action, nous devrions l'écouter. Cependant, notre conscience peut approuver notre laxisme et faire appel à notre vanité et même nous flatter. Nous devrions nous en méfier. Nous paraissons tous devant le tribunal de la conscience. Un homme honnête ne se laisse pas guider par l'opinion publique ou l'opinion des autres, mais il fera ce qui est bien. C'est une formule courageuse, c'est une règle noble. Mais Paul ne l'a pas suivi. Je ne me juge pas non plus moi-même, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Paul ne parle pas ainsi parce qu'il savait qu'il faisait quelque chose de mal. Au contraire, il affirme qu'il ne se pensait pas coupable de quoi que ce soit. Il avait une conscience libérée, une conscience claire. Cependant, cela ne voulait pas dire que Dieu ne décelait pas quelque chose de mal. Nous avons tendance à juger les autres sévèrement et à être indulgents avec nous-mêmes. Ce fut le problème du roi David. Il a pu discerner le péché chez un autre, mais ne l'a pas vu en ce qu'il concerne. Qu'en est-il de nous? Si quelqu'un tient mordicus à ses opinions, nous disons qu'il est entêté. Mais lorsque nous le faisons, nous défendons courageusement nos convictions. Les autres causent des divisions et suscitent du trouble, alors que nous tenons ferme pour ce qui est bien. Ceux qui négligent l'assemblée le dimanche sont refroidis spirituellement, mais nous avons une bonne raison de le faire. Il est peu probable que nous nous jugions sévèrement. Nous aimerions avoir un rôle de chef, mais nous masquons notre véritable motif. Dieu peut renverser une décision de cette cour supérieure qu'est notre conscience. Car un jour, nous serons tous jugés par le Seigneur. Troisièmement, nous passerons tous devant la cour suprême. « Celui qui me juge, c'est le Seigneur », déclare Paul. Cette cour suprême est le seul et unique maître. C'est le tribunal de Jésus-Christ. Paul dit qu'il paraîtra un jour devant le tribunal de Jésus-Christ. Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Pour quelle raison passerons-nous devant le tribunal de Jésus-Christ? nous savons que nous ne serons pas jugés pour nos péchés, car autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Le psaume 103, verset 12. Nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus-Christ, et Dieu ne s'en souvient plus. La dette est payée dans son entier. Le croyant sera jugé pour ses œuvres en tant que chrétien et serviteur de Dieu. Nos biens, nos corps, nos ressources matérielles, les dons que nous aurons faits et les choses de ce genre seront considérées lors du jugement. Donc, il est important d'être un serviteur fidèle. Nous ne possédons rien, car Dieu nous a confié nos biens. Nous avons déjà appris que tout appartient à Jésus-Christ, dont nous-mêmes. Nous sommes ses partenaires. Nous avons vu à la fin du chapitre 3 que tous nous lui appartenons. Paul nous appartient et nous nous appartenons les uns les autres, ainsi qu'Apollos, Jean Calvin, John Wesley et Martin Luther, les réformateurs, nous appartiennent. Le monde nous appartient. Nous appartenons à Christ et nous nous appartenons les uns les autres. Nous pouvons jouir de ces paysages somptueux, de ces montagnes, de ces arbres, de l'océan et de la vie elle-même. Même la mort nous appartient. La mort ne vous maîtrisera pas. C'est vous qui allez la vaincre. Lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, tout nous appartient. Les choses présentes et les choses à venir. Nous sommes les gestionnaires de ce qu'il nous a confié. Verset 5. C'est pourquoi, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Oui, chers amis, c'est Dieu qui exercera le jugement final. Lorsque nous jugeons quelqu'un d'autre, nous prenons la place de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas à répondre aux critiques et aux insultes. Dieu sera juste dans son jugement, car il connaît tous les faits et tout ce qui est caché viendra à la lumière. Dieu trouvera un sujet pour louer tous les saints. Dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, Jésus trouve une chose de bien à dire au sujet de toutes les églises, sauf celle de Laodicée. Verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Les chrétiens n'avaient pas à préférer Paul ou Apollos, ni à choisir entre eux. Les deux servaient le même Seigneur. Ils appartenaient à Jésus-Christ, qui était leur Sauveur et Seigneur. Les deux hommes exerçaient leur don pour le Seigneur et l'avancement de son royaume. Verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous n'avons pas sujet de nous glorifier, frères et sœurs. Nous n'avons pas à nous vanter de nos dons, car ils ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Toute gloire va à Dieu. C'est Dieu qui nous a tissés, qui nous a donné des dons. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Le psaume 139, verset 15. En enseignant au sujet des dons, Paul a dit, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. » 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. « Nous n'avons pas à nous vanter, car nous avons tout reçu de Dieu. » Et si nous avons reçu, c'est pour être serviteurs de nos frères dans la foi et non pour les dominer. Versets 8 et 9. Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. De nombreux chrétiens étaient martyrisés à cette époque. Nous poursuivons un travail commencé par d'autres. Certains furent tués pour avoir servi Dieu. Verset 10 à 13. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errant çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Paul a beaucoup souffert afin d'annoncer l'Évangile. Il a évangélisé l'Asie mineure. Tous ont entendu l'Évangile dans cette contrée. Versets 14 et 15. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Paul est le missionnaire qui les a conduits à Jésus-Christ. C'est merveilleux d'être le père spirituel de quelqu'un à qui nous avons présenté l'Évangile. Et quiconque reçoit Christ dans sa vie possède maintenant cette semence incorruptible et immortelle, la semence qui est la parole de Dieu. Et on peut la semer à droite et à gauche, la parsemer, et elle produira de son fruit en son temps. Versets 16 et 17. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Nous voyons que Paul avait beaucoup d'estime pour Timothée. Devrions en avoir tous les uns envers les autres. Versets 18 à 20. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Paul dit qu'il n'est pas intéressé par les paroles de ces hommes, mais il veut démontrer qu'ils n'ont pas réellement une puissance provenant de l'Esprit. Verset 21. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur. L'attitude et les actions des Corinthiens détermineront si Paul viendra exercer de la discipline dans l'Église ou s'il viendra avec amour et avec un esprit de douceur. Nous récoltons toujours ce que nous semons. L'apôtre Jacques nous précise dans sa lettre, chapitre 3, verset 15. Qu'il y a deux sagesses, une sagesse qui n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre en toutes sortes de mauvaises actions. Voilà la description de cette sagesse qui vient de la chair. Et l'autre, verset 17, la sagesse d'en haut, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et celle-là nous amène la paix. Elle recherche la paix. Elle est semée dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Voilà le fruit de l'Esprit en nous. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Corinthiens chapitre 5.
Merci beaucoup, Régin. Tu as dit que le croyant sera jugé pour ses œuvres en tant que chrétien et serviteur de Dieu. Tu as dit que nos biens, nos corps, nos ressources matérielles, les dons que nous aurons faits et les choses de ce genre seraient considérées lors du jugement et qu'il est donc important d'être un serviteur fidèle. Moi, ce que je veux, c'est d'être une servante fidèle pour mon maître merveilleux. Et je suis certaine que c'est le désir de chaque enfant de Dieu. me rappelle le jour où je suis né de nouveau, le jour où je me suis repenti, où j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus. C'était plus fort que moi. J'ai dit, « Seigneur, prends tout mon cœur. » Et c'est ce qu'il a fait. Oh, je suis loin d'avoir été parfaite depuis ce jour, mais je sais que mon cœur et tout mon être appartiennent à Dieu depuis le jour où il m'a sauvée. Et quand il m'arrive d'en reprendre une petite partie, ne serait-ce que pour quelques instants, le Seigneur se charge de me le montrer et je lui en suis reconnaissante. Dans la leçon précédente, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 23, il nous disait « Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. » Je suis à Christ, je lui appartiens en entier. Mon frère, ma sœur, tu es à Christ, tu lui appartiens en entier. Et c'est tellement bon de réaliser ça et de nous soumettre en entier à lui, à sa parole. D'ailleurs, il ne nous demanderait jamais de faire quoi que ce soit qui ne serait pas pour notre bien. Il nous dit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mon ami, es-tu de ceux qui aiment Dieu? Es-tu de ceux que Dieu a aimés le premier? Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 9 et 10, il est écrit « Que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et bien sûr, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, es-tu ce quiconque? Crois-tu en Jésus? Crois-tu que c'est juste en plaçant ta confiance en lui seul que tu peux être certain de ne jamais périr, mais que tu aies la vie éternelle? Tu peux avoir la vie éternelle en ce moment même. Reconnais que tu es un pécheur perdu, que tu ne peux pas te sauver toi-même, que tu es incapable de satisfaire la justice de Dieu à cause du péché. Reconnais que Jésus est celui qui a satisfait la justice de Dieu pour toi en mourant sur la croix. Repens-toi, mon ami. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Ses bras sont grands ouverts et il veut te sauver. Il veut te donner cette vie merveilleuse.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu, du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.